Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Finis ton assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur la nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûre de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Finis ton assiette, le podcast. J'espère que vous allez bien, que le soleil des jours passés vous a fait du bien au moral en particulier, que vous n'êtes pas trop fatigué par ce changement de saison et que vous me suivez dans le challenge bienveillant du mois d'avril qui est de manger de saison uniquement tous les jours du mois. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. C'est quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram pour me poser cette question. Et je pense que voilà, ça peut être diffusé à assez grande échelle parce que ça concerne quand même pas mal de monde. Donc la question était comment bien gérer mon alimentation pendant le jeûne du Ramadan. Voilà, pour ceux et celles qui le savent pas, le Ramadan commence demain. Et voilà, je me disais que c'était bien de faire un petit point là-dessus parce qu'effectivement je vais commencer par vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que le Ramadan, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Ensuite, je vais vous parler de l'alimentation pendant le Ramadan, avant le Ramadan, pendant le Ramadan, donc les différents repas, leur contenu idéal, etc. Et après le Ramadan. Et puis, dans une dernière partie, je vous parlerai un petit peu des erreurs à éviter. Alors, d'abord, qu'est-ce que le Ramadan ? Alors, le Ramadan, c'est une période qui est liée à la religion musulmane, en fait. C'est une période de 30 jours qui se déplace un petit peu dans notre année civile habituelle, parce qu'elle est basée sur un autre calendrier, qui est le calendrier musulman, et qui compte 10 jours de moins, à peu près, que notre calendrier à nous, ce qui fait que voilà, cette période du Ramadan change de position finalement sur notre année civile dans l'année. Elle avance de 10 jours à chaque fois. Alors en fait, cette période-là est caractérisée par tout un tas de préceptes en fait, et il y a un jeûne à respecter, c'est-à-dire que les personnes qui pratiquent le Ramadan ne doivent ni manger ni boire pendant toute la journée, c'est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors cette année, ça tombe dans une période qui est moins difficile que d'autres. Je dis pas que c'est facile, hein. J'imagine bien que c'est difficile. Moi, voilà. C'est pas une pratique que j'ai, le jeûne en général. Donc je pense que voilà, je pense que c'est difficile. Mais par exemple quand ça tombe en plein été et qu'on peut pas boire, je pense que c'est encore plus compliqué. Donc en fait, cette pratique, elle est à faire à partir de la puberté, sauf pour les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes malades ou encore les femmes enceintes ou allaitantes. Donc effectivement, voilà, il s'agit d'un jeûne complet. Entre autres, hein, il y a d'autres éléments qui caractérisent le Ramadan, mais moi, ce qui me concerne, c'est vraiment la partie alimentaire, donc je vais parler uniquement de la partie alimentaire. Ensuite, je vais vous parler donc de l'alimentation pendant le Ramadan. D'abord, avant le Ramadan, alors l'idéal, c'est de préparer son corps en mangeant équilibré et en faisant de l'activité physique régulière les semaines précédant le Ramadan, parce que, alors, je sais, en consultation, je reçois des personnes qui pratiquent le Ramadan et il y a quelques personnes qui ont tendance à me dire « Non, mais là, c'est bientôt le Ramadan, il faut que je fasse des réserves, du coup, je mange plus. Voilà, c'est pour pallier un petit peu au manque de la période de jeûne. » Alors non, c'est-à-dire que si vous faites des excès, que vous mangez complètement déséquilibré avant le Ramadan, en fait, votre corps va être fatigué et il sera pas dans les conditions optimales pour subir en fait le jeûne qui lui est imposé. Donc, il vaut mieux plutôt manger équilibré et il vaut mieux avoir une bonne hygiène de vie avant même le début du Ramadan pour aider votre corps à être en pleine forme en fait. Ensuite, pendant le Ramadan, alors le Ramadan, il y a 3 repas qui sont conseillés. Je vais pas m'aventurer à prononcer les noms parce que c'est des mots dans la langue arabe que je ne parle pas et je voudrais pas offenser qui que ce soit avec ma prononciation. Donc il y a trois repas. Il y en a un qui est avant le lever du soleil, que moi j'appellerais petit déjeuner. Ensuite il y en a un, c'est la rupture du jeûne, c'est-à-dire à partir du moment où le soleil se couche, on peut recommencer à manger. Et en général, c'est plus une grosse collation qu'un repas, donc moi je l'appellerais déjeuner. Et il y a un troisième repas qui est conseillé, que j'appellerais dîner, qui intervient donc quelques heures, une à plusieurs heures après la rupture du jeûne. Alors pour le petit déjeuner, ce qui est important, c'est d'apporter des protéines. Pourquoi ? Parce que j'en ai déjà parlé, mais en fait, le corps, l'organisme ne fait pas de réserve de protéines. Donc, en fait, il va utiliser les protéines qui sont données pendant les repas, et quand il en a plus, quand il en a plus suffisamment pour faire tout ce qu'il a à faire, il va aller les piocher dans les muscles. Ce qui fait que, en fait, la période de jeûne est propice à la fonte musculaire. Sauf que, après, c'est plus difficile de bouger, de faire nos activités du quotidien, et c'est pas ce qui est recherché. Donc, il faut un apport de protéines suffisant pendant les repas. Donc, le petit déjeuner est un bon moment, en fait, pour faire un petit, pour donner un apport suffisant de protéines. Donc, à ce moment-là, vous pouvez manger un produit laitier, vous pouvez manger des petits suisses, du fromage, en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez manger boire du lait fermenté aussi. Il y a plusieurs possibilités. Sinon, vous pouvez manger des œufs. Ce qui est bien avec les protéines, c'est que ça a un pouvoir satiétogène, c'est-à-dire que ça va repousser la faim. C'est-à-dire que ça va vous donner la sensation d'être rassasié longtemps. Et c'est pas négligeable, évidemment, quand on fait un bon petit déjeuner. Eh ben, si on peut repousser un maximum la sensation de faim et qu'elle arrive plutôt après le milieu de la journée, c'est bien. Et puis si on peut repousser encore un peu, c'est mieux. Donc un petit déjeuner, c'est vraiment indispensable. Après, c'est difficile de gérer ça avec le sommeil, parce que vu que les repas sont pendant la nuit, forcément ça raccourcit le temps de sommeil. Donc en général, on est fatigué et on a peut-être un peu de mal à se lever le matin. Mais vraiment, je vous conseille de prendre le temps pour votre énergie dans la journée, de prendre le temps de prendre ce repas-là avant le lever du soleil. Donc l'idéal, c'est qu'il soit constitué de protéines, mais aussi de lipides, c'est-à-dire de matières grasses, de bonne qualité si possible, comme par exemple, c'est les lipides qu'on peut trouver dans les oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, etc. Ce sont des aliments qui vont apporter beaucoup d'énergie, même en petite quantité, c'est-à-dire que, en général, on fait des repas qui sont assez copieux, et c'est pas toujours facile de manger à sa faim. Il y a des personnes qui perdent du poids pendant le ramadan. C'était d'ailleurs la problématique de la personne qui m'avait posé la question. L'avantage des oléagineux, c'est que même en petite quantité, ça va apporter beaucoup d'énergie et ça va apporter beaucoup de bons nutriments. Donc il y a des lipides, effectivement, mais il y a aussi un petit complément de protéines végétales. Il y a des fibres qui ont aussi un pouvoir satiétogène important. Donc c'est des aliments qu'il faut privilégier. Parce que ils ont beaucoup d'avantages pour vous aider à avoir faim plus tard et à vous apporter quand même de l'énergie, même en petite quantité. En plus, au niveau des lipides, c'est en majorité des oméga 3 qui vont vous aider à maintenir des capacités de concentration et de mémorisation, surtout dans la matinée. C'est pas négligeable. Dans ce même repas, donc le petit déjeuner entre guillemets, je vous conseille de manger des glucides complexes, c'est-à-dire des féculents riches en fibres. Ça peut être du pain complet par exemple, ou des choses comme ça. Comme ça va vous donner de l'énergie. Les glucides, c'est le premier fournisseur d'énergie de l'organisme, et les fibres ont ce pouvoir rassasiant et satiétogène qui est fort. Donc c'est encore une fois, c'est tout bénef. Et puis des fruits, parce que les fruits, il y a des glucides aussi, donc ça va vous donner un petit peu d'énergie. Et puis encore une fois, il y a des fibres, et puis surtout il y a des vitamines et des minéraux dans cette période, vu que les repas sont assez regroupés, on a tendance à manger des choses qui sont très énergétiques pour pouvoir essayer de tenir un maximum le jeûne sans trop souffrir. Et les fruits et légumes sont un petit peu négligés et pour autant, ils apportent des vitamines et des minéraux qui vont vous aider à accompagner en fait les mécanismes qui sont mis en place pendant le jeûne et puis qui vont voilà vous aider à être un peu plus en forme parce que si ça prend un peu plus de temps que ça, mais s'il y a des débuts de carences qui se mettent en place, vous allez être hyper fatigué aussi. Donc voilà, là l'idéal c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour être le moins fatigué possible. Ensuite, donc après ce petit déjeuner entre guillemets, vient le moment du jeûne. Donc c'est relativement long. Là cette année, bon c'est moins long qu'il y a quelques années où c'était en pleine canicule, mais bon, ça reste quand même une journée complète. Le soleil se lève vers 8h moins le quart, quelque chose comme ça, et il se couche environ 12h plus tard. Donc ça fait quand même 12h de jeûne. Donc c'est quand même long. Et voilà, donc c'est important de prendre un repas qui vous apporte suffisamment d'énergie sur le long terme pour pouvoir tenir le coup. Donc à la fin de cette période-là, c'est-à-dire au moment où le soleil se couche, vient un deuxième repas qui est la rupture du jeûne, c'est-à-dire que c'est les premiers aliments qu'on mange après le jeûne, pour clôturer le jeûne. Donc moi, c'est un repas que j'appellerais le déjeuner. En fait, ce repas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une espèce de grosse collation avec du sucre parce que votre glycémie, là, votre taux de sucre dans le sang est au plus bas. Donc, c'est normal d'être fatigué, d'avoir des problèmes de concentration, etc. Ce sont des situations qui sont tout à fait physiologiques. Donc, apporter du sucre à votre organisme, c'est une bonne idée. Vous pouvez manger des fruits ou des fruits séchés, des dattes par exemple, des biscuits. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Attention, les dattes, ce sont des fruits secs qui sont très très sucrés. Donc, une portion de dattes, c'est 2 dattes. Donc on a tendance à en manger plus parce que c'est des petites quantités, mais en fait ça va avoir un impact très fort sur votre glycémie. Et surtout, ce qui est très important, c'est que manger du sucre, oui, mais pas tout seul. Pourquoi ? Parce que justement votre glycémie est très très basse à ce moment-là, elle est au plus bas. Et si vous mangez du sucre immédiatement, enfin du sucre en grosse quantité, le mécanisme de régulation de ce sucre là dans le sang va intervenir, ce qui fait que vous allez très rapidement derrière faire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que votre corps fait en sorte de se réguler un petit peu, de réguler un peu cet apport de sucre qui arrive d'un coup et qui est un peu violent pour lui, et en fait il va aller stocker le sucre sous forme de graisse dans votre corps pour l'évacuer du sang, pour pas que ça soit trop compliqué à gérer pour votre organisme. Donc il va faire des stocks, mais surtout il va mal travailler, c'est-à-dire que c'est un peu comme comme quelqu'un qui travaille, à qui on donne trop de travail, mais quand il est surchargé, il y arrive pas bien. C'est très difficile de travailler quand on est sous l'eau. Et ben là, votre organisme, c'est pareil. Si vous lui donnez trop de travail à faire d'un coup, et ben il va avoir des difficultés à le faire et il va pas le faire forcément très bien. Donc manger du sucre pour redonner un petit peu d'énergie à votre corps, oui, mais pas tout seul. Alors comment on peut faire pour faire en sorte que cet impact-là soit pas trop fort ? Et ben il faut mélanger ce sucre-là avec des protéines qui vont faire baisser ce qu'on appelle l'index glycémique, enfin la charge glycémique. Ça va faire baisser ça. Donc encore une fois, un produit laitier par exemple, vous pouvez manger du fromage blanc par exemple avec des fruits, ça c'est possible. Et ce qui est hyper important à ce moment-là, c'est de recommencer à vous hydrater. Attention, je vous conseille d'éviter de boire une grosse quantité d'un coup, pour plusieurs raisons. D'abord parce que votre estomac s'est un petit peu rétracté pendant le moment du jeûne, et que boire une grosse quantité d'un coup, ça va remplir votre estomac, et ça va prendre de la place alors que l'eau, ça n'apporte pas d'énergie. Et en l'occurrence, à ce moment-là, votre corps a besoin d'énergie. Donc il lui faut de la place pour mettre les aliments qui vont vous donner de l'énergie, qui vont donner de l'énergie à votre organisme. Ça, c'est indispensable. Et en plus, quand on boit une grande quantité d'un coup, le corps, pareil, c'est un peu comme l'employé dont je parlais tout à l'heure, il va pas trop savoir quoi faire et il va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on boit une grande quantité d'un coup, très souvent, On a très envie de faire pipi très rapidement derrière. Parce qu'en fait, le corps, il le diffuse pas dans l'organisme. Il dit non, mais là, c'est trop, il faut que je l'évacue. Donc ça ne va pas vous hydrater, en fait, tout simplement. Donc, la solution, c'est de boire des petites gorgées un peu espacées dans le temps. Essayez de vous dire, je bois 2 gorgées toutes les 10 minutes. Et puis, ça sera plus facile, en fait, pour votre organisme, non seulement pour se réhydrater, et en plus pour éviter de prendre toute la place dans l'estomac, et place qui est nécessaire aux aliments qui vont vous donner de l'énergie. Vient ensuite le troisième repas, que moi j'appellerais le dîner, qui est donc cette fois-ci donc à manger quelques temps après la collation, là, le déjeuner finalement qui a été mangé à la rupture du jeûne. Donc là, ce qu'il faut dans l'idéal, c'est faire un repas complet, mais de bonne qualité pour éviter d'impacter le sommeil. Donc encore une fois, c'est à peu près la même composition. Il faut dans l'idéal manger des aliments protéinés. Attention, les viandes grasses par exemple sont très difficiles à digérer et elles pourraient avoir un impact sur la qualité de votre sommeil. Donc manger des œufs, manger du poisson, manger des viandes peu grasses, voilà, ça c'est le top, ça va vous apporter une quantité suffisante de protéines sans surcharger finalement le travail de digestion de votre corps qui pourrait avoir un impact négatif sur votre sommeil. Alors que là, pour le coup, dans cette période-là, aussi bien votre alimentation que votre sommeil sont très précieux. Donc des aliments protéinés avec des féculents complet dans l'idéal, parce que les féculents, donc c'est vraiment les glucides complexes dont je parle régulièrement, c'est l'énergie, c'est le carburant de votre corps. Et complet, pourquoi? Parce qu'ils sont plus riches en fibres, et comme je le disais un petit peu avant, les fibres, elles vont vous permettre d'être rassasiés plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment des atouts qui sont non négligeables. Pensez à laisser une place pour les légumes. C'est ce que je disais pareil un petit peu plus tôt, les fruits et légumes sont un petit peu négligés pendant cette période parce qu'on a tendance à se diriger vers des aliments qui vont donner plus d'énergie, ce qui en soi est assez logique, mais les fruits et légumes vont apporter des fibres supplémentaires et puis des vitamines et des minéraux qui vont aider l'organisme à faire son boulot comme il faut. Et ensuite, vous pouvez manger un dessert, un produit laitier et ou un fruit, éventuellement des pâtisseries si jamais vous avez encore de la place. Mais sachez que les pâtisseries qui sont grasses et sucrées vont avoir potentiellement un impact négatif sur votre sommeil. Donc attention à ça. Voilà, donc globalement, ça c'est les trois repas idéaux à faire chaque jour du Ramadan pour essayer d'avoir un maximum d'énergie et puis apporter à votre corps ce dont il a besoin. Voilà. Et à la fin, après la fin du Ramadan, après l'Aïd, donc l'Aïd c'est le repas qui clôture en fait le Ramadan, et c'est pas toujours facile de reprendre un rythme de repas plus habituel, parce que pendant un mois on a mis en place un rythme. Alors au début c'est difficile, mais en fait à la fin finalement, comme pour tout, on s'habitue un petit peu, et après c'est difficile de refaire le chemin inverse et de repartir vers des habitudes qui correspondent plus à notre mode de vie habituel. Donc dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de privilégier plutôt des petits repas rapprochés avec tous les nutriments, mais à l'échelle de la journée. C'est-à-dire, encore et toujours, les nutriments essentiels qu'il faut dans une journée, c'est des aliments protéinés, des féculents, des fruits et légumes et des lipides, c'est-à-dire des matières grasses. Voilà. Essayez globalement dans la journée d'avoir tous ces aliments-là, ces nutriments-là, environ un tiers, plus la matière grasse. Globalement, sur la journée, si vous pouvez faire ça, c'est top. Et faites-le éventuellement en petits repas. Parce que des fois, la personne qui m'avait posé la question, par exemple, sur les réseaux, me disait que elle avait du mal, en fait, à manger finalement, parce que son corps s'habitue à manger peu. Et en fait, à la fin, elle ressent plus trop la faim, beaucoup moins. Donc là, dans ces cas-là, l'idéal, c'est pas de se forcer finalement à manger, voilà, à se retrouver dans une situation qui est inconfortable, mais c'est plutôt de manger des petits repas, mais plus souvent dans la journée. 3 repas principaux, autant que possible et une ou deux collations, voire trois s'il faut. Mais ça peut vous permettre de reprendre en fait des habitudes qui sont plus calées sur le rythme circadien qu'on a l'habitude de respecter pour nos repas. Et n'oubliez pas évidemment une bonne hydratation, voilà. Ça, c'est important. Et pareil, des petites gorgées tout au long de la journée. Ensuite, dans la dernière partie, je vais juste vous parler de quelques petites erreurs qui seraient à éviter. La première, c'est négliger son sommeil. Oui, les nuits sont plus courtes. Et encore là, on est dans une période où, même si on mange les deux repas le soir et le repas le matin, on peut quand même avoir une nuit qui est raisonnable, on va dire. Si jamais vous vous sentez très fatigué, n'hésitez pas à faire des siestes. C'est important parce que ça a un impact sur votre alimentation et votre alimentation a aussi un impact sur votre sommeil. Pour en savoir un petit peu plus sur tout ça, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode sur le sommeil qui est le premier épisode du mois de février. Je pense que c'est celui du 1er février. Voilà, où je vous explique un petit peu ça, en fait, l'impact de l'alimentation sur le sommeil et inversement. La deuxième erreur à éviter, ça serait de maintenir une activité identique à d'habitude. Là, alors c'est plus ou moins possible selon votre mode de vie, mais essayez de ralentir le rythme. C'est difficile de tenir le coup sur un mois entier. Donc essayez de ralentir le rythme, ça reste provisoire. N'essayez pas de pousser votre corps à bout parce que c'est trop difficile sinon de tenir le coup. Une autre erreur qui serait à éviter, c'est de se coucher immédiatement après le dernier repas, le repas du soir, parce que en général notre estomac il est plein à ce moment-là parce que c'est quand même des repas qui sont assez copieux et ça pourrait provoquer ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien, des brûlures en fait qu'on ressent dans l'œsophage qui seraient en l'occurrence causé par le fait d'un estomac trop plein et le contenu qui remonte en fait le long de l'œsophage quand on se couche rapidement après le repas. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre un petit peu, alors en fonction de votre fatigue, 1 à 2 heures après le dernier repas, c'est bien. Attention aux aliments liquides, les soupes, etc., qui auraient plus de facilité à remonter à ce moment-là. Donc ça peut être des petits conseils pour vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un reflux pendant cette période-là. Et c'est souvent, parce que l'estomac est un peu trop plein et qu'on se couche avec l'estomac plein. Ensuite, une autre erreur qui serait à éviter, c'est de manger un peu vite fait et dans un contexte peu favorable. Les repas qui sont pris pendant cette période-là, mais comme tous les repas, globalement, s'ils sont pris trop rapidement et en trop grande quantité, ça va pouvoir provoquer des ballonnements et des douleurs abdominales parce que, en fait, votre organisme a trop de boulot. Il a trop de choses à faire quand on mange trop vite. Souvent, on mastique pas assez. Et ce travail-là de broyage, c'est votre estomac qui va devoir le faire. Et en fait, c'est compliqué pour lui. Donc, facilitez-lui la vie, mâchez, prenez le temps de manger, ça c'est important. Et puis, dans l'idéal, essayez de manger dans un contexte favorable. Si vous pouvez éviter les écrans, c'est bien, parce que quand on mange devant un écran, on est plus concentré sur l'écran que sur le repas, et on a tendance à manger vite. Et du coup, voilà, ça peut provoquer les fameux ballonnements, voire douleurs abdominales dont je parlais juste avant. Une autre erreur à éviter, ça serait de délaisser les repas au profit du grignotage. Des fois, on est là, moi j'ai un petit creux maintenant, alors je le mange un peu maintenant, et puis un peu plus tard, et puis un petit truc, et puis machin. Et puis finalement, dans ces cas-là, évidemment, on se tourne plutôt vers des aliments qui sont gras et sucrés, qui vont donner de l'énergie immédiatement, donc ça, pour le coup, oui. Mais les protéines et les fibres qui peuvent être un petit peu négligées dans ce type de comportement alimentaire, c'est les choses qui vont vous permettre de maintenir en fait cette satiété, de maintenir cet état de non-faim le plus longtemps possible. Et là, dans cette période de jeûne, c'est important de tenir compte de ces éléments-là. Une dernière erreur qui serait à éviter, c'est de boire beaucoup de thé et de café. Ce sont des boissons qui ont, alors, en plus d'un facteur antinutritionnel qui freinerait l'absorption de certains minéraux, en particulier du fer, elles ont des propriétés diurétiques, c'est-à-dire que ça va favoriser l'élimination par les urines. Sauf que, vu qu'au cours de la journée, cette élimination-là de liquide n'est pas compensée parce qu'on ne peut pas boire pendant la journée, ça peut mener à un début de déshydratation, donc c'est vraiment pas l'idéal. Privilégier l'eau, et puis les tisanes, la chicorée par exemple, enfin voilà, des aliments, des boissons pardon, qui n'ont ni théine ni caféine, ça c'est l'idéal. Voilà, donc j'ai donné quelques conseils, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous sera utile pour les semaines à venir. Je conclurai juste en disant qu'il y a des variations de poids qui sont courantes à cette période. Il y a certaines personnes qui prennent du poids, il y a d'autres personnes qui en perdent. C'est assez difficile de respecter son appétit pour maintenir l'énergie toute la journée, mais c'est pas grave si vous êtes pas parfait. Ce qui est important, c'est de faire de votre mieux. Juste une petite mise en garde, s'il y a des personnes diabétiques qui font le ramadan, je vous conseille vivement de consulter un médecin avant le début du ramadan pour vérifier l'équilibre de votre diabète, parce qu'en fait, cette période-là, entre le jeûne, les aliments sucrés, la rupture du jeûne, etc. C'est une période qui est très très propice au dérèglement du diabète, et pour éviter d'avoir des troubles importants sur votre santé, c'est vraiment important de vous faire accompagner. Voilà. Et puis surtout si vous vous sentez très fatigué, si vous êtes proche d'une hypoglycémie ou en hypoglycémie, contactez les secours et faites-vous aider. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné quelques indications, et puis n'hésitez pas si vous avez envie de réagir ou quoi que ce soit à venir me trouver, j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un bon ramadan, bon courage à toutes les personnes qui le font, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast@gmail.com. Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leavillard.diète. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.